tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Made in Frisch.
Made in Frisch.
Made in Frisch. Machine.
Made in Frisch.
Consacré aux arts et cultures numériques.
Émissions en public et concerts radio commentés en mode numérique.
C'est les 21 et 22 novembre au Grand Table de la Friche.
Et en direct sur Radio Grenouille.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au Grand Table de la Friche. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en public donc et en direct sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM ou www.radiogrenouille.com si vous nous écoutez ailleurs. Et nous sommes ensemble pendant une heure environ pour le dernier des rendez-vous proposés par Radio Grenouille dans le cadre de ce week-end Made in Frisch Machine. C'est un concert radio commenté et nous nous intéressons aujourd'hui au projet Omax at Lomax, ou plutôt devrais-je dire Solomax, avec Raphaël Imbert et Benjamin Lévy. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Salut. Bonjour. Bienvenue et merci d'être avec nous ici au Grand Table. Nous sommes ensemble sur scène pour donc ce moment de concert radio commenté autour de Solomax. Un moment entre concert, à vrai dire, performance numérique et expérience scientifique, on pourrait dire. Raphaël Imbert, peut-être que certains ont besoin d'une présentation, mais on le connaît bien dans la région et ailleurs. Musicien de jazz, directeur de la compagnie Nine Spirit, avec laquelle de multiples projets sont développés, que ce soit entre les parallèles de la musique de. Que ce soit dans des parallèles entre la musique de John Coltrane et celle de Bach, entre celle de Mozart et d'Ellington, ou encore dernièrement dans une exploration en bonne compagnie des musiques du sud des États-Unis, au-delà des barrières de couleurs. Raphaël Imbert, tu es également saxophoniste, avec aujourd'hui ton saxophone alto, ténor et soprano, et puis auteur avec le livre Jazz Suprême qui s'intéressait à la spiritualité et à la mystique dans le jazz et qui a reçu justement un très bel accueil critique. À côté de toi, Benjamin Lévy, donc développeur informatique et musicien, et qui aujourd'hui, donc, c'est une de ses spécialités, va piloter le logiciel Omax. C'est le premier logiciel d'improvisation musicale développé dans les murs de l'IRCAM, sur lequel tu as eu l'occasion de travailler, toi, dans le cadre d'une thèse de doctorat que tu as présentée en 2013, c'est ça? Exactement. C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère, c'était quoi l'intitulé de ta thèse?
Principe et paradigme pour l'interaction musicale improvisée, hein, quelque chose comme ça.
D'accord, donc on va essayer de faire plus simple aujourd'hui et de comprendre un petit peu donc, qui est cette Omax, qui est un petit peu la troisième ou la quatrième personnalité présente avec nous sur scène aujourd'hui pour ce concert radio commenté. Comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que tous les deux vous interagissez entre vous et avec cet intervenant musical numérique? Donc c'est un logiciel d'improvisation avec lequel je vous propose, on va peut-être commencer à faire connaissance avec lui en écoutant ce qu'il est capable de faire, en vous écoutant dans le même élan. On va coller nos oreilles au plus près de ses improvisations et on va commencer avec Omax qui va nous réinterpréter un fameux solo de John Coltrane, une partie d'un solo de John Coltrane qui est en fait la coda de I Want to Talk About You. C'est un standard, hein, Raphaël, du jazz.
Tout à fait,
on peut le dire.
Un standard écrit par Billy Eskin, qui était un grand chanteur crooner de l'époque.
Et John Coltrane en a donné une version mémorable, donc Omax va se saisir de la coda. On se retrouve juste après, en mots, après vous avoir écouté.
Thank you.
On va parler de ce qu'on vient d'entendre. Là, on a l'impression, donc je, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct sur les ondes ou sur le web, il n'y a qu'un seul saxophoniste sur scène. Hein, mais vous avez eu l'impression d'entendre un orchestre de saxophones, hein, quasiment. Je voudrais juste savoir comment a commencé votre collaboration, parce que ça fait quelques années que ça dure déjà. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il y avait un centre d'intérêt réciproque pour les pratiques et les centres d'intérêt de l'autre, ou comment s'est passée la rencontre entre Raphaël Imbert et Benjamin Lévy, d'abord, avant de parler d'Omax?
En ce qui concerne, en tant que saxophoniste, en tant que directeur d'une compagnie, puis en tant que compositeur et chercheur, moi je suis plutôt quelqu'un de l'acoustique. Je ne suis pas particulièrement attiré par le monde de l'électronique ou le monde du numérique. Je suis très attaché, tu l'as dit, par rapport à des projets autour de Bach ou de Mozart, même à la musique de chambre, à l'improvisation dans la musique classique ou dans les musiques traditionnelles. Et je suis très, très attaché à l'idée d'acoustique, en fait, des choses. L'un n'empêche pas l'autre, tu vas me dire, mais c'est vrai que jusqu'à ce que je rencontre Benjamin et toute l'équipe de l'IRCAM qui travaillait autour de Max, j'étais moins impliqué dans ce genre de projet. Et on s'est rencontrés parce que moi, en tant que chercheur cette fois-ci, en tant qu'étudiant à l'EHESS, j'ai été intégré dans un gros projet qui a été financé par l'ANR, c'est-à-dire l'Agence Nationale pour la Recherche, qui s'appelait Improtech. Donc c'était un projet autour de l'improvisation et des nouvelles technologies. Parce qu'en fait, l'improvisation est en quelque sorte un nouveau terrain à conquérir des nouvelles technologies. Pour plein de raisons sur lesquelles on pourra peut-être s'attarder un petit peu durant l'émission et durant le concert, ce domaine de l'improvisation soit faisait peur, soit était considéré comme pas forcément intéressant. Et là, il y a un nouveau terrain, terrain de jeu, c'est le cas de le dire, qui était en train de se développer. Et ils ont monté avec le CNRS, avec l'IRCAM, avec le HESS, avec plein de laboratoires, une grande recherche collective autour de l'improvisation et des nouvelles technologies. Et moi, j'étais impliqué là-dedans en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant que voyageur, ethnologue, où j'ai sillonné le sud des États-Unis pour étudier le rapport qu'avaient les musiciens dits traditionnels, folk ou folkloriques, même dans certains cas, tous liés à l'oralité, à l'improvisation, quel était leur rapport, non seulement à l'improvisation, mais aussi aux nouvelles technologies, qu'elles soient médiatiques, Internet, les réseaux sociaux, ce genre de choses, et également dans la lutherie, l'organologie et la confection de la musique. Et évidemment, j'avais une double casquette, j'avais la casquette du chercheur, puis j'avais aussi la casquette du musicien. Mes patrons, mes directeurs de recherche m'ont dit « Surtout, tu prends le saxophone et tu vas jouer avec eux. » Et d'ailleurs, ça a donné naissance à l'album dont tu as parlé tout à l'heure, « Music is my home », qui est vraiment cette rencontre, cette mise en perspective de l'hospitalité musicale de tous ces artistes que j'ai rencontrés là-bas. Mais j'y étais vraiment, voilà, dans ce cadre-là. Et là-dessus, très rapidement, on s'est rencontrés D'abord dans les réunions pour organiser un ProTech, hein, ça impliquait quand même beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs. Et là, j'ai rencontré Benjamin, j'ai rencontré Gérard Assayag, qui est vraiment le responsable de cette recherche sur l'improvisation autour de à l'IRCAM. Et des gens aussi comme Marc Chemillier, qui travaillait aussi activement dans ce cadre-là. Et très rapidement, avec Benjamin, on s'est tout de suite connecté. Parce que j'insiste, la machine, c'est une chose. Mais Benjamin est aussi un musicien et c'est très important dans le dialogue qu'on peut opérer là-dessus.
Benjamin, j'imagine que si tu étais là, c'est que tu avais déjà un vrai intérêt pour les musiques improvisées et pour le jazz également.
Pour le jazz, au départ, pas forcément. Et j'en écoutais beaucoup, mais je suis venu à en jouer moi-même en grande partie grâce à Raphaël. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, moi j'étais déjà derrière l'ordinateur et je présentais un des énièmes prototypes du logiciel pour des étudiants de l'EHESS avec comme démonstration, on va jouer avec Raphaël, donc je ne connais absolument rien et on va voir comment ça réagit.
Alors, il y a de multiples versions d'Omax en activité aujourd'hui. Bon, là, c'en est une. On va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure également. Donc, l'Omax, quand on dit l'Omax, il s'agit d'Alan Lomax, hein, je n'ai pas précisé. Donc, c'est le fameux, on pourrait dire, archiviste du patrimoine musical, notamment du sud des États-Unis, du patrimoine vivant, hein, qui, au siècle dernier, a réalisé une quantité énorme d'enregistrements qui, aujourd'hui, font véritablement patrimoine. L'Omax était déjà là aussi, hein, dans la pièce, en quelque sorte.
Oui, en fait, c'est... Moi, la première fois que j'ai essayé Omax, alors le Benjamin l'a bien dit, je n'ai rien voulu savoir de cette machine. J'ai dit, si cette machine est censée improviser avec moi, je veux le découvrir en temps réel. Je veux pas savoir comment ça marche, je veux être un béotien. Vous savez, quand on se retrouve avec un musicien qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue et tout ça, voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Et d'ailleurs, j'étais un peu sceptique quand même au départ. Hein, on m'a dit, tu vas voir, il y a un logiciel, ça marche. Non, je veux rien savoir. Et la première fois qu'on a joué ensemble, ça a très bien marché. Et la chose qui, moi, m'a intéressé tout de suite, c'est qu'en fait, Omax, on va l'expliquer un petit peu, ça apprend à parler. En fait, ça apprend à faire de la musique, mais comme un bébé apprend à parler. Ça analyse ce que vous êtes en train de jouer, et ça prend des... Il va voir des répétitions, des constructions. C'est là où on remarque qu'on est des Monsieur Jourdain. Vous savez, dans Molière, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et là, c'est pareil. En fait, on fait des constructions de phrases et tout. On répète des phrases sans forcément le savoir. Et Omax le repère et repropose des choses avec ça. En fait, ça, c'est un peu au prou la façon d'apprendre le jazz et le blues, particulièrement aux États-Unis. Et donc, c'était intéressant. Tout de suite, j'ai fait le rapprochement. En plus, c'est un jeu de mots. Les gens de l'IRCAM sont des grands amateurs de jeux de mots. Donc, j'en ai rajouté une couche. J'ai dit Omax, l'Omax, il y a forcément un lien quelque part. Et notamment en proposant, parce que vous pouvez tout omaxiser. Donc ça devient un adjectif, ça devient un verbe hein, d'ailleurs. Vous pouvez tout omaxiser et notamment des documents sonores qui existent déjà. On va montrer quelques exemples durant l'émission. Mais là, avec Coltrane, c'est presque fantomatique, un peu bizarre. On rappelle un petit peu le fantôme de Coltrane et moi, je m'amuse à jouer avec et Omax prend en compte le fichier numérique de l'enregistrement, ce que j'improvise et le mélange en quelque sorte pour donner une nouvelle forme.
C'est ce qu'on vient d'entendre. Hein. Tu as lancé le solo de Coltrane, Benjamin, et puis on a entendu qu'il semblait se démultiplier comme dans des reflets, comme avec des reflets dans des miroirs sonores. Et puis Raphaël est entré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Alors, l'image du miroir est la bonne. Je l'emploie souvent pour expliquer que Omax, quelque part, c'est un miroir déformant pour le son, sauf que je contrôle la déformation en permanence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai donné à la machine ce solo et je lui ai dit d'improviser avec. Et là, quand Raphaël est rentré, ce qu'a joué Raphaël est venu compléter le solo de Coltrane comme si c'était à la suite dans le même concert et comme si la machine avait tout écouté. Et du coup, après, la machine était capable de faire des ponts entre le son de Coltrane et le son de Raphaël.
Donc on s'est retrouvé avec un John Coltrane, un Raphaël Imbert et au moins un double de chacun d'entre eux en train de jouer tous ensemble.
Hein. Alors si vous avez réussi à compter, ce qui n'est pas forcément évident, il y en a eu 3 au maximum.
D'accord. Wow.
Ce qui met la barre assez haut quand même, hein, oui. D'entrée, hein, c'est vrai que c'est un challenge. Et une petite anecdote qui est assez drôle, c'est qu'une fois j'ai joué...
Juste après on revient à la musique, ouais, hein, Raphaël,
oui.
Si tu veux
mais,
bien.
Mais c'est juste pour vous dire, une fois j'ai joué ça, on a joué ça devant un public très jazz, et on ouvre toujours le concert avec ça. Et il y a plein de gens qui connaissent bien Coltrane, et là, je les vois froncer les sourcils et se dire, mais c'est quoi ce solo de Coltrane ? Parce que c'est du Coltrane, c'est son phrasé, mais en fait, comme c'est retransformé par Omax, c'est comme un nouveau solo. Alors c'est génial, je repère dans la salle les amateurs de jazz qui sont en train de froncer les sourcils et en train de se dire, mais c'est quoi ce solo de Coltrane ? Je connais pas ça, ça doit être un inédit, quoi, tu vois. Donc en fait, on peut faire des choses assez incroyables avec cette rencontre.
Nouvelle improvisation avec Benjamin Lévy et Raphaël Imbert, toujours en direct sur Radio Grenouille pour ce concert radio commenté. Et on va se retrouver juste après pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment, sur qui est ce Omax. Musique, messieurs, s'il vous plaît.
Thank you.
Raphaël, Benjamin, vous préparez beaucoup avant de jouer, en général, tous les deux? Ou vraiment, l'improvisation, jusqu'à quel point est poussé le principe de l'improvisation sans filet ou...
J'y vais.
Vas-y.
En fait, on prépare le moins possible au niveau des intentions, des directions et tout ça. Tout peut arriver. Et d'ailleurs, tout arrive. Hein. Par contre, on essaye de changer l'ordre des choses, la manière de manipuler le contexte. C'est-à-dire qu'on pourrait très facilement, à chaque fois, faire « je joue », au max enregistre et propose, et puis on improvise comme ça. Donc là, on va essayer de trouver des directions chaque fois différentes. Par exemple, pourquoi pas, ce qu'on ne fera peut-être pas aujourd'hui, pré-enregistrer un solo à moi, comme on a fait avec Coltrane tout à l'heure, et le reproposer, et c'est moi qui réagis à ce qu'Omax fait. Prendre des fichiers, prendre des sons, prendre, pourquoi pas, des sons dans le public aussi, ce genre de choses, et essayer à chaque fois de changer la direction, de ne pas être systématiquement dans le dialogue. D'abord, Omax apprend, et puis propose, et par rapport à ce que je joue, et ensuite on joue tous les deux. On essaie de trouver plein de moyens différents.
Partir de zéro, presque, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe d'Omax, hein, Benjamin, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu comme un enfant, et à chaque fois, il recommence à apprendre en fonction de ce qu'il entend, si j'ose dire.
Exactement. Le principe premier est celui-là, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé entre Raphaël et moi là, sur le dernier morceau, où l'ordinateur ne connaît rien. Et une fois qu'il a appris une note de Raphaël, ben, il peut rejouer une note. Et au fur et à mesure que Raphaël ajoute des notes, l'ordinateur les enregistre aussi, essaye de les comprendre d'une certaine manière et joue avec ça au fur et à mesure. Le principe est assez simple au fond. Ça part du postulat que dans toute musique, il va y avoir des répétitions, quoi qu'il arrive, que ce soit des répétitions de notes, de motifs, de phrases, de timbres même, c'est-à-dire de textures sonores, il y aura des répétitions et la machine est très très forte pour reconnaître ces répétitions.
L'oracle des facteurs, puisque tu parles de répétitions, c'est quand même... alors là, on est toujours en pleine poésie, hein, après Omax at Lomax. J'aimerais bien que tu nous dises deux mots sur cet algorithme, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui préside à la manière dont Omax apprend, en fait, hein, si j'ai bien compris.
Exact. Le moteur d'Omax, celui qui permet de reconnaître les motifs dont je vous parlais, s'appelle effectivement l'oracle des facteurs. C'est un algorithme qui a été inventé au départ dans la communauté du texte, de l'analyse de texte, parce que c'est un outil puissant pour reconnaître les structures, pour faire émerger des structures grammaticales de texte, les répétitions. Et ensuite, ça a très très rapidement dérivé vers la génétique. C'est-à-dire qu'il y a un autre domaine où on utilise beaucoup 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 les répétitions, et notamment les longues répétitions, c'est le séquencement de l'ADN. Le principe de base, c'est de reconnaître quels motifs sont répétés, et si possible le plus long possible. Donc ça a été beaucoup utilisé dans cette communauté-là. Et nous, on est tombé sur cet algorithme-là. Ou plutôt à l'époque, Gérard Assayag et Georges Bloch et Marc Chemillier sont tombés sur cet algorithme-là. Et on se sont dit, ah mais c'est génial, parce que dans la musique, il y a le même genre de répétition. Et non seulement ça, mais en plus, il y a des propriétés de cet algorithme qui nous intéresse bien, qui permet de faire des variations musicales, tout simplement, en enchaînant des motifs qui, au départ, ne s'enchaînaient pas.
Donc, est-ce à dire, parce que je suis un peu poète, donc de suite je pars un peu loin, mais qu'il y a des similitudes entre la structure du génome et la structure de musicale, y compris dans l'improvisation?
La similitude, c'est qu'il y a des choses qui sont répétées, en fait, et que c'est partout, il y a des motifs, des schémas, des suites de lettres, des suites de mots, des suites de quelque chose qui se répètent, et que ça, c'est complètement inhérent à tout.
S'il y a une similitude entre le génome et ce qu'on fait musicalement, je ne veux pas me retrouver en face de la création génétique que nous créons à chaque fois qu'on improvise. Surtout pas.
C'est quand même toi, Benjamin, bien sûr, qui décide à quel moment Omax apprend, c'est-à-dire à quel moment il enregistre, et puis ensuite, quelle partie de ce qu'il a appris il va utiliser pour le réinjecter dans le jeu avec... En l'occurrence, Raphaël, c'est ça.
Tout à fait. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, je ne contrôle pas les variations microscopiques de cet algorithme. En revanche, je contrôle à haut niveau quand est-ce qu'il apprend, quand est-ce qu'il joue, quelle partie de ce qu'il a appris il a le droit d'utiliser ou non, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il transpose, est-ce qu'il accélère, est-ce qu'il ralentit, etc. Donc, je contrôle vraiment les choses de haut niveau qui font que ça donne un résultat musical et pas juste une machine à générer.
C'est une sorte de clone aussi qui est créé un petit peu du musicien avec qui il joue, c'est ça, non ?
Tout à fait, et dans le manuscrit de thèse que j'ai dû rédiger, le terme de clone apparaissait, c'est une espèce de fantôme de Raphaël ou de clone créé de Raphaël.
Voilà. Bienvenue.
Tu es un peu un cobaye aussi dans l'histoire.
D'une certaine manière, on y reviendra sans doute, mais c'est intéressant de voir les réactions des improvisateurs. Il y a deux camps. Il y a ceux qui trouvent ça terrifiant, avec en plus sous-jacent l'idée que finalement ça peut nous piquer notre boulot. Parce qu'à terme, c'est tout le problème de la réflexion sur l'intelligence artificielle, on y reviendra. Mais bon, il y a quand même un côté... voyez les dégâts que les boîtes à rythme ont fait sur les batteurs dans les années 70 et 80. Donc on est peut-être un peu dans cette situation-là. Et inversement, être improvisateur, c'est de toute façon accepter d'être un cobaye. Et accepter d'abandonner quelque chose. Si on n'accepte pas d'être un cobaye, d'abandonner quelque chose de soi-même quand on improvise, c'est pas la peine d'improviser. Donc c'est ça qui, moi, par contre, ça m'a enthousiasmé. Alors autant je suis quelqu'un d'assez méfiant vis-à-vis de tout ce qui est électronique, déjà parce que j'y comprends pas grand-chose, mais là, par contre, j'ai tout de suite ressenti une compréhension, une vraie attraction pour ça, parce que justement il y avait un jeu, il y avait des jeux de concurrence, des jeux d'imitation, des jeux de challenge, parce qu'en fait au max, d'accord, au début il balbutie, c'est vraiment, en quelques minutes vous avez l'impression, là, il y a beaucoup d'enfants dans la salle et c'est très bien, mais vous savez quand les enfants commencent à vouloir parler, ils répètent, ils babillent, ils font papa, maman et tout ça, au max fait ça au début. Alors vous l'avez dans l'improvisation qu'on vient de faire, je fais une note, bah, d'abord il répète, il fait la note.
Voilà. Et puis, après, des légères variations sont introduites.
Il apprend à parler. Le problème, c'est que très rapidement, il parle beaucoup mieux que vous. C'est-à-dire qu'il va faire techniquement des choses que je suis totalement incapable de faire. Ou alors que je vais essayer, vouloir faire. Et en fait, c'est exactement quand j'improvise avec un autre musicien, particulièrement avec un autre saxophoniste, on est toujours en train de... On fait un peu les coques. C'est des challenges. Et bien là, on a le même challenge, fraternel, mais concurrentiel, avec une vraie dose de... Ah ouais, attends, il a fait ça. Bon, ce qui est très perturbant, c'est qu'il a fait ça à partir de moi. Parce que sans moi, ou sans la proposition de départ, Omax ne fait rien. Donc on est très fiers. Et en même temps, on est un peu gêné parce que ce qu'est en train de faire Omax, je suis incapable techniquement de le refaire.
Il y a une des réactions dont parlait Raphaël, il y a des musiciens qui ont refusé de jouer parce que c'était trop terrifiant. Il y a aussi des musiciens qui s'emparent de ça de manière géniale et partent dans tous les sens avec ça et sont comme des enfants avec cette machine-là, quoi.
Ce qui est mon cas. Et j'ai eu des réflexions de musiciens, vraiment d'immenses improvisateurs. Une fois, j'avais une discussion avec un camarade saxophoniste qui m'a dit « Ah mais non, Max, c'est super, mais c'est vachement intéressant, mais ça peut pas être créatif. » Je dis « Ah bon, pourquoi ? Ouais. Ah, non, c'est limité puisque ça imite ce que je fais moi. » Alors je dis « Écoute mon gars, t'es trop modeste d'une certaine manière, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend ce que tu fais, tes propositions, puis c'est un vrai dialogue. Après tout, l'apprentissage de l'improvisation, notamment dans le blues et dans le jazz, c'est ça, c'est d'abord imiter, ensuite répéter et ensuite trouver sa propre voix. En fait, c'est un outil d'apprentissage du jazz qui est incroyable.
Après cette improvisation modale assez libre, on va venir vers quelque chose de plus proche des racines de ce dont on parle, du jazz, avec un format inspiré des chants de travail, Raphaël, c'est ça, des work songs.
On va faire un work song, c'est-à-dire que là, j'ai retiré un document qui n'est pas de l'Omax, mais un de ses descendants, c'est Art Rosenbaum, qui a enregistré un copain à lui qui faisait des work songs dans sa jeunesse, et en fait, il l'a enregistré dans son jardin, c'est pour ça qu'on entend le chien derrière, en train de donner le coup de pioche sur le premier temps, et chanter un chant de travail qui est très connu, c'est John Henry. Et en fait, Omax va improviser là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Omax, cette version d'Omax, et celle qu'on utilise particulièrement pour cette improvisation, n'a pas de notion de pulsation. Donc le coup de pioche, il va venir un peu par hasard. Et moi, je vais me baser sur ce coup de pioche comme si c'était un premier temps qui venait un peu sans que je sache quand il va arriver. Donc il y a toujours de la surprise. Et je vais construire un long blues de réponse, je vais répondre au coup de pioche, à chaque fois proposer un accord et répondre comme ça. Alors là, on est dans l'autre sens. C'est moi qui apprends d'Omax et non pas le contraire.
Vous écoutez toujours le concert radio commenté avec Raphaël Imbert, Benjamin Lévy et Omax en direct des grandes tables de la Friche sur Radio Grenouille.
I'm Henry. My name is Sam. My right name, I'm Claudette. Oh, partner, partner, he was a hooking steel. Oh, John Henry, died on Henry. I run, my name is Sam, I'm crawl there. Oh, partner, he was a Ridge Mountain. I hook in, and when the sun went Henry, I run, my name is Sam, I'm crawl there. Oh, partner, he was a Ridge Mountain. Name is Sam, man crawl there. Sam Ridge Mountain, man crawl there. Down on the mountain, oh partner. Sam, my right name. Ridge Mountain, my Lord. My name is Sam.
Solo Max avec Raphaël Imbert et Benjamin Lévy autour de cette work song donc enregistrée dans le sud profond au siècle dernier. Vous avez fait des expériences avec d'autres types d'archives de l'Omax ou pas, Raphaël, Benjamin?
Alors de l'Omax, autant que je me souvienne, on avait utilisé une autre sorte de work song. Aussi, on a essayé avec pas mal de documents de blues. Et puis en fait, on s'est inspiré de ça en essayant de trouver d'autres documents. C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure. Et également avec, alors c'est un document qui me plaît beaucoup. C'est un document du Révérend Gates. C'était un des prêcheurs les plus radicaux des années 20 et 30, qui a été enregistré il a beaucoup de prêches du Révérend Gates qui ont été enregistrés. Et en fait, quand on le met avec Omax, ça devient un vrai rap en fait. Et si on utilise, là pour le coup, on est aussi dans une réaction différente, parce qu'on joue beaucoup sur les contrastes. L'improvisation, c'est aussi mettre en valeur l'autre par quelque chose de différent. Si, et ça, ça marche bien en groupe aussi, si on fait une rythmique derrière, on construit une rythmique plutôt hip-hop, ce genre de choses, on est vraiment là, dans les racines du hip-hop, du rap et de tout ce qui s'ensuit. Et c'est intéressant aussi, ce document est très intéressant parce qu'il montre comment la parole, particulièrement la parole américaine, mais afro-américaine, systématiquement se transforme en musique. Et ça, Omax le montre. Quand on l'entend, ça paraît assez évident, mais naturel. Et quand tout d'un coup, Omax l'utilise et construit des choses à travers ce qu'il a appris de ce document de prêche, donc il y a un vieux prêche d'un pasteur afro-américain, là, on touche du doigt des règles qui peuvent paraître évidentes quand on les explique, mais on les comprend pas forcément en les écoutant normalement. Et là, tout d'un coup, elles sont évidentes, vraiment.
Benjamin, est-ce que Omax est le blues?
Omax est le blues au sens...
Est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il a le blues?
il peut avoir le blues. Alors, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Il peut avoir le blues. On a essayé aussi avec d'autres archives de saxophonistes, à la Coltrane ou Colm Hawkins ou des gens comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire, nous, on passe notre temps à faire ça parce que dans les labos, au moment où on développait au max, évidemment, on n'avait pas toujours Raphaël sous la main pour essayer. Donc, on a passé notre temps à trouver des fichiers avec lesquels ça marche bien ou pas bien, pourquoi ça marche bien, pourquoi ça marche pas bien, etc. Donc, on a passé notre temps, finalement, à essayer avec des archives. Et alors, est-ce qu'il a le blues ? Eh ben, j'ai envie de dire, ça dépend ce qu'il apprend. C'est-à-dire que s'il apprend le blues, il peut y arriver. S'il apprend autre chose, on peut essayer de lui faire faire un blues, mais c'est beaucoup plus difficile.
D'accord.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin pour le coup, parce que je pense, moi, ce qui m'a attiré dans Omax, c'est qu'en fait, il a le blues systématiquement. C'est-à-dire le fait de prendre une phrase et de travailler autour de la répétition de la phrase, c'est le blues, en fait. C'est vraiment l'idée que le blues n'est pas que une façon de jouer la guitare, de prendre telle note, les blue notes, ce genre de choses. C'est avant tout comment on construit un discours musical, comment on utilise une phrase, comment on la répète. Le work song, d'ailleurs, c'est vraiment l'idée de la répétition, du call and response. Le blues a développé ce truc-là avec call and response. Et toujours avec, on joue, on répète et on donne une réponse. On joue. Et on peut le faire en musique contemporaine. On peut prendre n'importe quel élément musicaux, même extra-musicaux. Ben, Omax, lui, il fait ça. Donc, en fait, pour moi, dès que j'ai écouté Omax et dès que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, j'ai tout de suite dit à Gérard, à Marc et aussi à Benjamin, je dis, mais votre truc, c'est un bluesman, en fait. Et j'insiste là-dessus parce que, voilà, c'est quand même assez intéressant que ça vienne de l'IRCAM, qui est une institution extrêmement marquée par la musique contemporaine, l'avant-garde, l'expérimentation. Et il faut savoir quand même, entre parenthèses, que c'était une révolution que l'IRCAM s'occupe d'improvisation. Tant que M. Boulez était dans les parages, on ne voulait pas entendre parler d'improvisation. C'était quelque chose de terrible. D'ailleurs, c'était vraiment une sorte de tabou. Parce que Pierre Boulez, pour des raisons d'ailleurs qu'il regarde et qui sont au niveau de l'argumentation excellentes, disait « Non, moi, je ne veux pas d'improvisation ici. » Alors évidemment, il y a des systèmes qui ont été développés, notamment avec Max MSP, des systèmes de spontanéité. D'ailleurs, c'est très marrant de voir comment le monde de la musique contemporaine a trouvé plein de mots pour parler d'improvisation sans dire improvisation, parce que ça faisait trop jazz, d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, les choses se délient un petit peu, la présence tutélaire du maître étant un peu moins forte, puisque, à mon avis, il faisait de l'improvisation en cachette, comme tout le monde dans les années 60, dans les conservatoires. Là, les choses ont commencé à ressortir, avec des choses passionnantes. Mais là, je me rappelle très bien la première fois que je leur ai dit « Mais votre truc, c'est un truc de blues. » Je me rappelle la tête de Gérard, il m'a regardé comme ça, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. D'ailleurs, ils avaient tout l'essentiel des premières expérimentations avec Omax, c'était avec des musiciens de l'intercontemporain, des musiciens qui venaient de la musique contemporaine, et qui d'ailleurs étaient très liés au fait « Tiens, parfois, on apprend à ne pas faire la même chose. » Moi, je trouve que c'est génial avec Omax, c'est justement « Apprenons à répéter, à faire les variations autour d'une idée centrale. » Ça, c'est la première fonction du blues. Donc, c'est un outil de blues et c'est extraordinaire.
On va le constater encore, peut-être, avec le morceau qui suit. On n'en parlera pas plus, mais je crois qu'il y a quand même encore des traces de Pierre Boulez hein, dans Omax. Mais bon, c'est un autre sujet. Il est encore un petit peu là, quand même. Mais ça n'empêche pas donc Omax d'avoir le blues. Et je vous propose de le constater avec toujours Benjamin Lévy et Raphaël Imbert en direct sur les 3-8. Blues. Mm-hmm. Max n'a pas le sens de la pulsation, vous le disiez un peu plus tôt. Par contre, il a le blues, hein, on confirme, ça c'est sûr.
Et justement, là on voit, moi je rêve, on ne l'a pas assez fait encore, mais Omax est un outil pédagogique extraordinaire en fait. Et justement, moi je me tue avec, dans mes masterclass avec mes élèves et tout, à expliquer, vous savez, le blues, c'est justement cette idée de répétition, de survol de la ligne et tout ça. Et vous avez remarqué, en fait, vous m'avez peut-être vu faire un signe. Je faisais un signe avec les deux doigts comme ça. On a vu ça dans une pub pour des barres chocolatées, mais c'était juste pour dire couper. En fait, je demandais à Benjamin de couper l'apprentissage. Donc qu'il arrête d'apprendre ce que je faisais pour que je puisse passer à autre chose de totalement différent qui ne serait pas intégré dans la suite de l'improvisation. Par contre, Omax continuait à improviser. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des clones, mais on peut créer d'autres personnages aussi, qu'on peut cloner d'ailleurs autant qu'on veut, mais on crée vraiment des personnages. Donc, on est dans cette recherche-là, et là, j'ai rentré un groove. Et le fait que Omax ait juste appris les phrases, mais avec un feeling de blues, avec ses répétitions et tout ça, elle rentre dans le groove parfaitement. Parce que moi, je me tue à dire à mes élèves, vous savez, le swing et le groove, c'est pas forcément qu'une affaire de pulsation, c'est aussi une affaire de feeling, de façon dont on fait les choses. Et là, Omax, c'est une des très nombreux exemples où Omax est extrêmement efficace pédagogiquement et comme outil d'analyse.
Benjamin, ce que tu fais, ça se rapproche finalement beaucoup de ce que peut faire un DJ, par exemple. J'aurais envie de dire que tu composes presque en temps réel avec ce que Omax intègre. Je ne suis pas sûr que tu veuilles vraiment endosser cette casquette de compositeur, mais entre le compositeur et le DJ, il y a quelque chose de cet ordre-là, un petit peu, non, dans le rôle que tu joues là.
Le rôle que j'ai là est assez clairement le rôle d'improvisateur, finalement, quelle que soit la définition qu'on met derrière ça. On peut appeler ça composition instantanée, on peut appeler ça plein de choses. Très clairement, je suis improvisateur et j'ai tendance à considérer cette petite machine-là comme mon instrument, à l'exception près que, quelque part, je ne crée pas le son physiquement. quelque chose d'important néanmoins. Mais clairement, j'ai un rôle d'instrumentiste avec ça finalement. Et oui, si tu veux, je compose en temps réel, sans problème. Donc c'est pour moi pareil qu'un improvisateur. Là où Raphaël m'a beaucoup surpris, effectivement, il le disait tout à l'heure, c'est dans l'aspect répétition qui, justement, dans le blues, dans le jazz et dans un tas de musique aussi très variée, est quelque chose de vraiment prégnant, est quelque chose d'intéressant et qu'on peut travailler et qu'on peut explorer, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la musique contemporaine, effectivement.
On va faire une dernière performance qui va clôturer ce concert radio commenté. Et je crois que vous teniez à jouer avec les gens qui sont ici aux grandes tables de la Friche Belle de Mai. Vous allez vous faire omaxiser.
Si vous acceptez, si vous vous mettez dans le camp de ceux qui acceptent, parce que vous pouvez peut-être aussi vous mettre dans le camp de ceux qui n'acceptent pas, dans ce cas-là, éloignez-vous un petit peu. Devenez spectateur, mais on aimerait vraiment faire cette expérience avec vous. Il y a un micro qui est juste à côté de Jean-Baptiste, là, et de l'équipe régie. Ce micro va prendre tout ce qui se passe dans la salle, et on va juste emmagasiner... Enfin, Benjamin va enregistrer quelques sons. Alors, ces sons auront de la valeur s'ils sont faits collectivement et avec une certaine sincérité. Je vous rappelle que vous êtes en direct à la radio, que c'est podcastable, que ce sera écouté à peu près 500 000 fois dans le prochain mois. Donc, il faut vraiment... y mettre du sien. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez vous rapprocher aussi du micro pour avoir un peu plus d'effet. Là, le micro, vous voyez, c'est le petit micro qui est là. Et on va emmagasiner quelques sons très différents. Alors, est-ce que tu es prêt, Benjamin ? Voilà. Là, on est en train de réorienter. Là. Tout ça est du direct. Ce n'est pas forcément très radiophonique, quoique. J'aime bien le suspense que ça crée. Tu es prêt, Benjamin ? Alors le premier, je vois qu'il y en a qui essayent avec les verres et tout ça. Alors c'est parfait. Vous prenez le premier objet qui vous tombe sur la main, tasse à café, verre et tout ça, et vous allez le faire teinter. Ça peut être les chaises sont en métal, les tables sont en métal. Il peut y avoir plein de choses, des paquets de clés. Et à mon signal, on va le faire vibrer comme ça. Attendez deux petites secondes. On teste ça, d'accord. Je vais dire, il y en a qui essayent. C'est comme moi quand j'essaye les hanches. Tu es prêt? Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Stop. Cher maître, la même chose, mais avec des silences, vraiment beaucoup plus pointillistes. Vraiment, vous comptez 5 dans votre tête entre chaque intervention. Alors, stop. Stop. Juste, essayez de ne pas le faire tous le premier coup en même temps. Vous pouvez d'abord compter 5 et le faire après. Vous voyez, ça doit être un peu plus espacé. On y va. Super, c'est parfait. Ensuite, maintenant, ça va être avec votre voix. Je vais vous donner une note. Et on va essayer de chanter la même. Cette note, c'est un ré. Comme vous avez tous l'oreille absolue, on peut y aller. Non, je vous la donne quand même. Alors. J'espère que tu as enregistré le rire aussi. Hein. On va le faire après. C'est cette note-là, j'ai refait. Là, j'aimerais bien la même chose avec un vrai effet. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va monter la note, un effet de dynamique. On va partir comme ça, mais je pense qu'on peut y aller un petit peu plus et vous me suivez pour un volume un peu plus important. C'est parti. Super. Encore deux derniers sons et on va commencer à improviser. L'autre, ça va être une autre note. Et en fait, on va la faire, et puis quand je vais faire ça, on va la descendre. Ah, on va faire comme ça. Ah, c'est bon ? Tu es prêt ? Encore une ? Et le dernier, ça va être un cri, mais très net, très précis, à mon signal, comme ça, mais ah ! très, 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 très sec. Vous y allez ? Rien que pour le plaisir, j'en reprends un. C'est parti.
Merci, merci à tous.
Merci.
Merci Raphaël, merci Benjamin. C'est la fin de ce concert à Radio Commenté déjà, oui. Désolé, c'était trop court, mais c'était un plaisir de vous recevoir ici au Grand Table de la Friche Belle de Mai pour cette expérience. Un dernier mot, Raphaël, peut-être ?
Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Dire d'ailleurs qu'on reviendra en mars.
Pour le festival Marsan Baroque.
Voilà, tout à fait. On refera ces expériences-là, et peut-être avec d'autres musiciens, ici même, pour une journée consacrée à l'improvisation. Je ferai une conférence sur l'improvisation dans la musique baroque et dans la musique, dans le jazz, dans les musiques populaires. Et voilà, cette aventure continue. On a plein de belles perspectives autour de ces nouveaux éléments. Un petit peu effrayants, peut-être. Enfin, moi, je n'y vois que d'excellentes raisons de se réjouir.
C'était Raphaël Imbert au saxophone au pluriel, Benjamin Lévy au pilotage d'Omax, Stéphane Galland au micro, Jean-Baptiste Imbert à la réalisation. On ne finira pas ce concert radio commenté sans remercier les équipes évidemment de Radio Grenouille. de Nine Spirit, la compagnie Olivier Corchia, de Zinc et de La Friche. Merci à vous, public ici aux grandes tables de La Friche ou auditeurs derrière vos postes de radio ou vos ordinateurs. On se retrouve donc en mars pour Mars en Baroque avec Omax, Atlomax et plus en mars 2016. N'oubliez pas que le nouveau disque de Raphaël Imbert, Music is my home, est pas encore sorti, c'est pour janvier. Hein.
C'est pour janvier, fin janvier, oui.
Vous pouvez déjà l'écouter sur Radio Grenouille, en fait.
Voilà. Il y a des privilèges. Il y a des privilèges encore bien marqués là-dessus.
Je vous dis à bientôt sur les 3-8. Je vous invite à réécouter le podcast de cette émission ou les podcasts des autres concerts radio commentés que nous avions réalisés avec, d'un côté, le pianiste Stéphane Oliva sur les musiques du compositeur de films, des films d'Hitchcock, notamment Bernard Herrmann. Et l'autre concert radio commenté, c'était avec le clarinettiste Yom et son guitariste Aurélien Africhou autour des voyages de la musique klezmer. Voilà, donc retrouvez tout ça en podcast ou sur les ondes de Radio Grenouille. Merci à tous et à très bientôt.
Merci Stéphane.
C'est la fin de cette émission.
Merci
Raphaël, merci Benjamin.
Made in Friche.
Made in Friche.
Made in Friche. Machine.
Made in Friche.
Consacrée aux arts et cultures numériques.
Émissions en public et concerts radio commentés en mode numérique.
C'est les 21 et 22 novembre aux grandes tables de La Friche.
Et en direct sur Radio Grenouille.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.